Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes, c'est incroyable, le mercredi 16 mars, il est 8h30. Et qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il est à la technique. Et pour un sudiste comme lui, ça déconne pas. Salut Corto.
Salut, salut, salut à tous.
Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant par téléphone avec Ben Herbert Larue. Il est poète et chanteur. Il sera jeudi à la bibliothèque de Florac à partir de 18h30 dans le cadre du Printemps des Poètes. On parle avec lui dans un instant. Il sera ensuite question de consentement sexuel avec Alexia Boucherie. Ce sera en deuxième partie d'émission. La musique aujourd'hui, ce sera évidemment Ben Herbert Larue, bien sûr. Et on commence Corto par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Et devinez qui est-ce qui a vendu des armes à la Russie jusqu'au moins en 2020? Eh oui, les mêmes qui en ont vendu à l'Arabie Saoudite, entre autres. La France, qui se fait le chantre de la paix, exporte ses armes et ce n'est pas nouveau. Face caméra, le ton est grave, chaque mot est pesé. Mercredi 2 mars, 10 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron s'adresse à la nation. Poutine a choisi la guerre, déclare-t-il aux 21 millions de téléspectateurs qui suivent son allocution en direct. Les forces russes bombarde Kiev, assiège les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont été tués. Il ajoute « Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine ». Ce soir-là, Emmanuel Macron omet de préciser une information de taille. Entre 2015 et 2020, malgré l'escalade militaire avec l'Ukraine, la France a discrètement équipé l'armée de Vladimir Poutine de technologies militaires dernier cri. Du matériel qui a contribué à moderniser les forces terrestres et aériennes de la Russie et qui pourrait aujourd'hui être utilisé dans la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a révélé en tout cas le média en ligne Disclose, relayé par Mediapart entre autres. D'après des documents confidentiels défense obtenus par Disclose et des informations en source ouverte, la France a délivré au moins 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie depuis 2015, a fait savoir le média, qui s'est plusieurs fois illustré en publiant les informations sur les ventes d'armes françaises. Le montant total de ces contrats s'élève à 152 millions d'euros, comme l'indique le dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armement. C'est ce qu'ajoute le média. Le gouvernement a ensuite confirmé ces informations, mais se dépend de tout manquement. Il s'agissait d'un flux résiduel issu de contrats passés évoqués dans nos rapports annuels au Parlement et qui s'est peu à peu éteint, c'est ce que résume le ministère des Armées auprès du journal Le Monde, ajoutant que l'embargo sur les armes à destination de la Russie, décidé par l'Union européenne depuis le 1er août 2014, après l'annexion de la Crimée par Moscou, autorisait la livraison d'armes liées à des contrats signés avant l'embargo. La France n'est d'ailleurs pas le seul pays européen à avoir agi ainsi, précise le ministère. Allez, une minute de silence pour la mort de la décence française et européenne. Churchill disait à la fin des années 30, « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » On peut légèrement changer cette maxime en disant « Ils avaient le choix entre l'honneur et la guerre, ils ont choisi l'horreur, maintenant ils ont la guerre. » On prend une respiration dans un instant, on retrouve Ben Herbert Larue, on écoute bah justement Ben Herbert Larue, le morceau s'appelle Carousel, je pense, non j'ai pas mis Carousel, j'ai mis...
C'est Ogre de Parole.
Ogre de Parole, merci.
Je me délecte de vos mots pour concher les fausses politesses. Je mange des brèves de bistrot, je graille des histoires de fesses. J'engloutis avec passion d'interminables discussions. Je suis un ogre de parole. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je parle. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je parle. Je collectionne les mots bateaux et ce qu'on aurait voulu dire. Je collationne les mots en trop et ce qu'on aurait voulu rire. Je bouffe des dialogues de sourds pour gueuler au monde aveugle. Des polémiques avec l'amour et de s'en coller plein la gueule. Je me baffre de romans éparpillés aux quatre vents. Et que dire des discours qui s'éteindront avec le jour? Je bouffe Tifa et des figures de style, des filandreuses métaphores, des phases si faciles. Je me bavre d'oxymores, et quand il n'y a plus de soleil, qu'on repose ses guiboles, moi, je parle dans mon sommeil, je suis un ogre de parole. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je parle. J'ai faim. Et quand j'ai faim, je parle. Les langues qui fourchent, je les becte.
J'ai faim.
Les mots en bouche, je les injecte.
J'ai faim.
Parfois j'en laisse quelques miettes.
Enfin,
il y a de la langue dans mon assiette.
Vivement la faim.
Et quand vient l'heure du dessert,
j'ai faim.
De tous ces mots imaginaires,
j'ai faim.
Je sors de table et je digère.
Enfin,
et bienvenue à la langue familière.
Vivement la faim.
Et justement, il faut que je vous raconte. Ce samedi-ci sur le marché, fuyant le fisc exprès, choisissant ses saucisses au chou et laissant ses anchois sécher, j'ai croisé ce cher Serge qui sortait de chez Charles. Dans ses 6 sachets sales, des sacs Super U. Dedans, 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Quelle surprise, lui dis-je, j'ai moi-même, ce matin même, croqué au troquet, 4 coquets coques qui croquaient 4 croquantes coquilles. Le respectable Serge, silence sous ses sourcils, inspecte le spectacle tel une estrade escarpée. C'est alors que voilà, volant sous les volets, la lumeuse Héloïse, la dyslexique marquise exquise qui esquisse une valse triste et brise un vase d'onyx. Mais comme tout le monde le sait, le ridicule ne nuit ni ne tue. Notre cher Serge, une fois de plus, sort une chaise sèche pour asseoir Héloïse.
C'est alors... Paye ton articulation le matin, ogre de parole, et nous sommes par téléphone avec son auteur et interprète, Ben Herbert Larue. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, tu m'entends bien?
Ouais, je t'entends très bien. Ouais.
Super, nous aussi. Tu seras ce jeudi à la bibliothèque de Florac à partir de 18h30 dans le cadre du Printemps des Poètes. T'es en tournée en Lozère depuis plus ou moins une semaine maintenant. Comment ça se passe dans notre jolie région?
Eh ben, ça se passe super bien, vraiment. Je suis très très bien accueilli dans tous les villages où je vais jouer. Tout le monde me dit que c'est le plus beau village de France. Donc je pense que le Lozérien, la Lozérienne... aime beaucoup sa région.
Tu m'étonnes, et c'est pas fini puisque Florac et Barjac s'en suivent cette fin de semaine. Dans la petite bio de présentation, c'est écrit que tu es un agitateur d'imaginaire. En ces temps troubles, est-ce qu'il fait bon se réfugier dans l'imaginaire?
Ah, je pense que c'est même complètement salutaire de se créer un petit monde, un monde en chanson ou en théâtre ou en poésie, dans lequel on peut aller trouver un peu de refuge, un peu de force et un peu de beauté pour en ressortir plus fort, pour affronter ce qui se passe en ce moment. Ouais.
Alors justement, comment tu la définirais, ta poésie, si tant est qu'elle doit être définie d'ailleurs?
Je sais pas trop. Moi déjà, je dis que je suis plutôt parolier. Que voilà, j'écris des paroles de poèmes, c'est les gens qui disent plutôt que j'écris de la poésie. Moi j'ai du mal à me dire moi-même que je suis poète. Voilà, j'écris des mots, si ça parle à des gens, c'est super. En tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une poésie du quotidien. Moi vraiment je passe beaucoup de temps à observer le monde et puis à le retransformer, à le resculpter, à le mettre en musique pour le resservir après sur scène à des gens.
Alors évidemment tu dois avoir pas mal d'influence, mais moi j'ai entendu un peu du Alain Leprest dans ce que tu fais. Est-ce qu'il fait partie de ton paysage sonore et poétique?
Ouais, quand même. Alain, et moi je suis né à Mont-Saint-Aignan près de Rouen, et c'est vraiment la ville dans laquelle il a grandi. Ouais. On a fait une chanson d'ailleurs, mais je l'ai rencontré vraiment très très tard. C'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir Alain Leprest sur un des derniers concerts de sa vie, et ça m'a vraiment bouleversé. C'était le plus beau concert que j'ai jamais vu. Donc ce qui est sûr, c'est que par la suite, j'ai beaucoup écouté ce monsieur, et il y a beaucoup de gens qui étaient dans sa sphère qui me suivent, qui viennent me voir en concert et qui me racontent un peu l'histoire de cet homme trop peu connu de son vivant. Mais je crois que c'est bien, parce que ça lui va bien de pas être trop reconnu.
Ouais, c'est vrai que ça lui va bien. Justement, les personnes dont tu parles et qui ont fait partie aussi de la fin de carrière de Le Prest, c'est notamment Yves Jamais.
Ouais.
Et Yves Jamais, lui aussi fait partie de ton paysage sonore.
Eh ben, c'est marrant que tu me parles de ces deux artistes parce que, donc, comme je te disais, moi, j'ai grandi, je suis né à Mont-Saint-Aignan, donc la ville de Le Prest. Et ensuite, mon père est allé vivre à Dijon. Et moi, j'ai vécu à Dijon et j'ai vécu en face du bar de l'univers. D'ailleurs, j'en fais une chanson dans mon album qui s'appelle Le Gamin du Deuxième. Et le bar de l'univers, c'est un bar dans lequel Yves Jamais était serveur, dans lequel il a fait vraiment ses premières armes. Donc, j'ai été obligé de faire de la chanson à un moment. Enfin, ça m'a rattrapé. Et du coup, c'est vrai que j'ai enregistré, j'ai déjà fait ses premières parties. J'ai enregistré un bout de mon album dans son studio. Donc oui, je le connais bien et j'aime bien ce gars-là aussi. Ouais.
Quand est-ce qu'il est né justement ton désir d'écriture et de chansons?
J'ai toujours écrit en fait depuis que je suis tout petit. Mais j'ai beaucoup écrit pour le théâtre quand j'étais vraiment gamin. J'écrivais des spectacles pour amuser mes parents, ma famille. Et puis après, quand j'ai eu l'âge de travailler, je me suis lancé dans le théâtre. J'ai écrit. Voilà, de la dramaturgie théâtrale. J'ai monté une compagnie de théâtre pendant plus de 10 ans. Et il y a 5-6 ans, comme ça, j'ai eu envie de revenir à quelque chose d'assez essentiel, assez direct, qui est la chanson. C'est-à-dire comment on écrit une histoire en 3 minutes, 4 minutes, avec vraiment en allant droit à l'essentiel. Et voilà, mais ce désir d'écriture, je l'ai toujours eu. En tout cas, comme on parlait d'imaginaire tout à l'heure, c'était vraiment cette envie d'imaginaire le plus possible, de comment on peut réinventer un monde et puis l'offrir aux gens.
Est-ce que tout est source d'inspiration pour toi ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as pas envie d'écrire ou alors que tu ne sais pas écrire?
Il y a des terrains sur lesquels je me suis pas encore aventuré, mais en général, ça dépend vraiment des périodes, dans l'émotion dans laquelle je suis. Sur mon premier album, j'avais une grande envie de légèreté, donc j'avais une grosse nostalgie de l'enfance à ce moment-là, donc j'ai beaucoup écrit dans ce sens. Là, j'approche de la quarantaine, donc c'est quand même une étape de vie, donc il est question un peu de ce qui s'est passé avant, de ce qui va se passer après. Parfois, je suis un peu en colère sur le monde ou en incompréhension, donc j'écris dessus. Non, je m'interdis rien vraiment dans les sujets à aborder. Et voilà, tout est possible vraiment. J'écris aussi beaucoup des chansons à la carte. J'ai fait ça sur des festivals, j'écris pour des gens. Les gens viennent me commander des chansons et j'écris tout. J'écris des chansons sur le ping-pong, sur la transplantation rénale, par exemple. Donc tout est possible dans la chanson et c'est ça qui est formidable.
C'est clair. À quoi doit s'attendre le public quand il vient te voir?
Un moment de rencontre, un endroit où on casse le quatrième mur du spectacle. Il n'est pas question d'artistes et de spectateurs et spectatrices, il est question d'humains qui sont ensemble et qui partagent un moment ensemble d'humour, de cynisme, un peu de militantisme et puis d'une très forte envie d'être ensemble.
Alors là, justement, hein, tu seras seul en scène, il me semble.
Ouais, normalement, je joue avec des musiciens et là, sur la tournée des Printemps des Poètes, je suis tout seul.
Est-ce que c'est plus crevant une tournée sans musiciens ou alors est-ce que finalement ça repose?
Non, c'est différent parce que déjà, c'est plus fragile quand on est tout seul. Tout repose que sur soi-même. Sur scène, il faut tenir la baraque, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est plus des grandes traversées de solitude parce que là en tournée, en général, je suis toujours avec des gens. Là, je me réveille, tu vois, ce matin dans ma chambre d'hôtel, je suis tout seul. Mais c'est bien aussi de traverser un peu des moments de solitude. Ça permet de se recentrer, de plus se concentrer sur le monde, sur ce qui se passe. Voilà, c'est une aventure que j'aime bien.
Et je dis ça aussi parce qu'à la fin de ta tournée, là, au mois d'avril, si je ne m'abuse, il y a un gros, gros, gros truc qui se prépare.
Ouais, c'est le dernier concert de mon album, le 3 avril, qui se fera avec un orchestre symphonique. donc avec 70 musiciens, musiciennes. Donc c'est vrai que j'y pense beaucoup en ce moment parce qu'on a répété avec le symphonique avant que je vienne. Et donc en ce moment je joue tout seul avec mon ukulélé, avec mon accordéon, et c'est vrai que derrière j'entends tout l'orchestre qui m'accompagne, donc c'est assez drôle quoi. Je suis tout seul, mais je le suis pas vraiment. Donc ouais, il y aura un très gros concert là, avec une très grosse salle, avec beaucoup de gens, et je pense que ça va être super.
Et dis donc, il y a quelques images qui traînent sur YouTube. Est-ce que justement ce concert sera filmé ?
Ouais, le concert sera filmé. Surtout, on va en faire un album. On va enregistrer le concert en live, et ensuite on va sortir un disque pour marquer cet incroyable souvenir, ce rêve de gosse qui m'arrivera certainement pas d'autres fois dans ma vie. Donc, on va en faire un disque, ouais.
C'est sûr. Et justement, comment t'as bossé, avec qui t'as bossé pour les arrangements? Parce que écrire pour 70 musiciens, faut y aller quand même.
C'est pas moi qui me suis occupé de ça. C'est un arrangeur qui s'appelle Romain Greff. Un super garçon qui a d'ailleurs eu un César pour la meilleure musique de film, là, celui d'Alex Lutz, là, il y a quelques années. Et donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très cinématographique, qui a fait beaucoup de musique pour le cinéma. Et moi, ça me va très bien parce que mes chansons, je les pense comme un petit court-métrage, comme des petits courts-métrages. Donc, lui, il a vraiment su choper l'essence de ce que ça raconte, l'essence des mots, et puis en faire un décor sonore magistral et vraiment d'une grande beauté, quoi.
Ouais, hâte d'entendre ça, ça va être cool. Comment ça s'est passé pour toi ces deux dernières années? Parce que la culture a pris cher.
Eh ben, ça a été compliqué comme tout le monde, hein. Donc au début, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'excitation comme ça, de vivre un truc assez incroyable dans l'histoire. Et puis après, très vite, le manque de lien est arrivé. Donc moi, j'ai beaucoup écrit, hein. Ces deux dernières années, j'ai énormément écrit. Et mon nouvel album va être une photographie de ce qui s'est passé ces deux années, avec cette envie de lien, ce manque de l'autre, cette envie aussi de légèreté, donc avec des textes beaucoup plus drôles, comme des petits instants d'humour qu'on peut s'offrir comme ça pour se faire du bien. Et puis après, il y a eu le temps des non-essentiels, qui a été très dur à digérer pour moi, cette incompréhension du fait que nous on n'avait pas le droit d'exercer notre métier. Du coup, il y a eu le temps des occupations des lieux de théâtre dans lesquels j'étais beaucoup investi à Rouen, dans ma région, et pendant 90 jours. Donc là, j'ai énormément écrit des paroles d'Agora. On a monté une émission de radio aussi chaque semaine, des paroles de gens qui avaient des choses à dire, des chroniques, et voilà. Donc j'ai écrit aussi dans ce sens énormément. Donc ça a été un ascenseur ces deux dernières années, mais en tout cas ça m'a permis d'y puiser une grande source d'inspiration pour la suite.
Et alors justement aussi, t'as un spectacle jeune public, l'importance de faire rêver les gosses dans ce monde de brut.
Ouais, effectivement, j'ai un mot qui s'appelle L'Ogre en papier, et ouais, c'est un truc que j'ai monté en parallèle. En fait, j'ai un petit garçon, moi, et pareil, pendant le confinement, j'avais écrit beaucoup de chansons pour le faire marrer. Donc voilà, c'était un peu notre rituel. Et puis à la fin, je me suis retrouvé avec plein de chansons comme ça pour les enfants, mais aussi pour les grands, parce que j'avais envie de faire rire un peu les gens de la famille. Et voilà, par la suite, j'ai réuni mes meilleurs copains, on a monté quelques chansons, et puis on se retrouve à faire une tournée. C'est un peu un accident comme ça de parcours, mais c'est... Moi, je fais de la chanson française, donc c'est vrai que c'est en général le public de la chanson française est assez vieillissant, on va dire. Et là, de jouer pour des gamins qui font des pogos et du rock'n'roll, c'est vraiment trop chouette, quoi. Moi, j'adore ça. Et puis c'est vrai que les enfants, ils ont un naturel de fou, une poésie incroyable. Et puis ils savent s'émerveiller. Et moi, j'ai très envie de m'inspirer de leur émerveillement en ce moment.
Alors allez vous émerveiller, auditeurs, auditrices. Jeudi, la poésie et la chanson sont à l'honneur à la bibliothèque de Florac à partir de 18h30 et à Barjac vendredi, c'est dans le cadre du printemps des poètes. Merci Ben.
Merci beaucoup.
Bonne fin de tournée à toi et justement, on t'écoute. La chanson s'appelle Les mains de mes grands-mères.
Super.
Tremble un peu d'avoir tant fait, d'avoir tant salué le monde. Moucher des mers, de goutonner, compter sur leurs doigts les secondes. Quand petite fille, elle se glissait dans notre comelle qui nous rassure qu'elle commençait à forger une poigne pour bâtir un futur. Les mains de mes grands-mères. Elles sont expertes en la manière de savoir se tendre à qui veut. Elles ont appris pendant la guerre à essuyer les larmes aux cieux. Elles résistaient dans la caresse quand elles se tuaient au labeur. Ces heures où elles n'ont eu de cesse de les avoir sur le cœur. Les mains de mes grands-mères. Elles ont touché des sols lointains, dessiné des cœurs dans la buée. Elles ont su serrer le poing, et quand il fallait le lever, elles ont fabriqué des foyers qui ont fait naître des lendemains, à coups d'amour ravitaillés et de courage à deux mains, celles de mes grands-mères. Elles se sont brunies au soleil, elles ont écrit dans toutes les langues. Elles veillent sur mon sommeil, les soirs où y'a mon monde qui tangue. À force d'être sûre et rassurante, de savoir comment se glisser. Au creux des trintamantes, on a fini par leur demander leurs mains à mes grands-mères. À mes grands-mères. Elles les ont vertes, elles les ont libres sur nos têtes blondes ébouriffées. Elles nous maintiennent en équilibre du bout de leurs doigts de fée. Alors c'est vrai. Alors c'est vrai. Qu'elles tremblent un peu. Ces gardiennes chaleureuses. Leur ligne de vie dans les creux, celle qui dessine les mains heureuses.
De retour en plateau, avec par téléphone Alexia Boucherie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes doctorante en sociologie sur le sujet du consentement sexuel. Alors pourquoi déjà en tant que sociologue vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet ?
Ben moi, ça fait quelques années que je travaille sur d'abord les violences sexuelles, puis en travaillant sur ce sujet, je suis arrivée au consentement, puisque c'est un sujet qui quand même entre en compte dans les violences sexuelles. Donc voilà, je me suis intéressée à ça parce que je me suis rendu compte que il y avait quand même un flou autour de la notion de consentement et qu'on savait pas forcément ce que c'était. Donc voilà.
C'est ça, on a l'impression, même en 2020, que c'est encore un sujet tabou, est-ce que je me trompe ?
Tabou, je sais pas, mais a priori compliqué à encore véritablement appliquer, quoi, hein, parce qu'on se rend compte que au-delà des violences sexuelles, il peut y avoir des incertitudes sur le consentement, et c'est quand même encore quelque chose qui est compliqué dans les relations sexuelles, manifestement.
Oui, c'est oui, non, c'est non. Alors, en théorie, les questions de consentement semblent aussi simples que ça, mais pour vous, ça va au-delà de cette binarité, comme vous m'avez dit.
Là, justement, on va revenir sur comment se pratique le consentement en réalité et les actes des plus explicites aux plus implicites qui peuvent venir contraindre ou en tout cas orienter le consentement. Et c'est vrai que parfois, le oui ne veut pas forcément dire que la relation sexuelle est désirée. Et moi, c'est ça le cœur de mes recherches, c'est de comprendre un peu ce qui se passe entre un oui explicite et un non explicite, explorer un peu la zone grise en fait qu'il y a entre ces deux pôles.
Comment on peut faire avancer les choses ? Parce que je me dis que ça reste un peu dans l'intimité du couple, non ?
Oui, mais après... C'est une question aussi d'éducation, hein, c'est une question d'apprentissage, c'est comment mettre en place peut-être des modèles alternatifs de consentement, notamment via les cours d'éducation à la sexualité, mais aussi après c'est une prise en compte beaucoup plus générale, de manière culturelle en fait, donc dans les médias, les représentations qu'on a à donner du consentement, c'est par là aussi qu'on peut espérer un changement.
Vous faites des conférences donc, et notamment dans les écoles. Quels sont les retours que vous avez de la part des jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent et est-ce que ça leur parle?
Moi du coup dans mes enquêtes j'interroge les 18-25 ans. Donc déjà dans les personnes, parmi les personnes interrogées qui vont avoir 18 ans par exemple, ça dépend, il va y avoir des personnes pour qui c'est assez simple. Et d'autres, oui, où on va avoir un peu plus de mal à définir le consentement véritablement. Ce qui ressort le plus, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à parler du non-consentement, ou en tout cas de violence, plutôt que du consentement en tant que tel, quoi.
On parle toujours de rapport de pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui concerne plus les femmes ou les hommes, ou est-ce que c'est égal à peu près?
En tout cas, en termes de violence sexuelle, véritablement, les statistiques sont quand même assez parlantes, puisque oui, on sait bien qu'il y a des rapports de pouvoir de genre. Mais en creusant un peu, on peut se rendre compte aussi que les hommes vont quand même être orientés par cette idée selon laquelle les hommes ont des besoins sexuels que les femmes en auraient moins, et avec ce stéréotype qui est faux, on se rend compte que les hommes vont avoir tendance à moins se poser la question de leur propre désir, puisque ils ont été élevés et ils ont eux-mêmes intériorisé le fait que ils ont toujours envie de sexualité. Tandis que les femmes, on va plutôt grandir avec l'idée que c'est à elles de réguler justement ces pulsions sexuelles masculines. Donc il y a quand même une dichotomie entre l'éducation au consentement des femmes et des hommes.
Ouais, c'est intéressant. Vous parliez de pédagogie, est-ce que vous parlez aussi, je ne sais pas, d'associations, d'organismes qui peuvent aider quand on parle de consentement sexuel?
Localement, il y a quand même le planning familial qui est présent, notamment en Lozère. Je pense que sur ces questions-là, c'est important. Enfin voilà, si on a des questionnements, etc., je pense que c'est important d'aller les voir. Après, sur le consentement en tant que tel, ça peut être compliqué d'aller voir des professionnels parce que là encore, ça demande quand même une certaine déconstruction de tous ces stéréotypes. Mais oui, le planning familial, je pense que c'est déjà une très bonne source vers laquelle se tourner.
Peut-être une légère digression, je ne sais pas ce que vous inspirent les propos de Blanquer, ministre de l'Éducation, sur ce qu'on appelle la tenue républicaine pour les filles.
Oui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ça?
Vous n'êtes pas obligé.
Oui, non, pour moi, enfin, c'est encore déjà tenue républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pourquoi ça concernerait que les filles? Enfin, voilà, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de penser qu'on doit avoir un regard forcément sur comment les filles s'habillent. Soit c'est trop couvert, soit c'est pas assez couvert. Enfin, au bout d'un moment, voilà, il va falloir commencer à juste arrêter de contrôler le corps des femmes, en fait.
On est encore loin de changer les mentalités, en tout cas. Ça vous désespère pas?
Non, disons que il faut essayer aussi, de manière individuelle ou de manière locale, voilà, d'agir comme on peut à notre niveau et peut-être pas trop espérer de prise en compte réelle des institutions, mais voilà, ça avance quand même. Il y a certaines personnes qui ont envie aussi de faire bouger les choses, donc ça avance doucement, plus lentement que ce qu'on aimerait, mais bon. On va essayer de faire en sorte que ça bouge, quoi.
Vous avez publié, si je ne m'abuse, en mars 2019, votre mémoire de Master 2 sous le titre « Trouble dans le consentement ». Pourquoi avoir employé ce mot « trouble » ?
Alors, ça fait référence à une autrice états-unienne qui s'appelle Judith Butler, qui elle a théorisé, enfin un de ses grands ouvrages s'appelle Troubles dans le genre, et c'est vraiment une des représentantes des gender studies, donc des études sur le genre, et qui a vraiment théorisé des notions de notamment la notion d'hétéronormativité que j'utilise dans le livre. Et donc voilà, c'était un rappel pour ça. Et puis aussi parce que le consentement est a priori trouble, hein, c'est que ça reste flou, et donc voilà, c'était un double jeu de mots.
Comment vous avez dit
hétéronormativité?
Normativité. Alors j'avoue que je ne connais pas ce mot, c'est quoi?
C'est alors comment dire de manière la plus simple possible. En gros, c'est toute la construction sociale qu'il va y avoir autour de la dualité, mais aussi la complémentarité homme-femme. C'est-à-dire que il y a un modèle hétérosexuel qui a été construit de manière ancienne, hein, c'est-à-dire que un homme et une femme, un homme a un pénis, une femme a une vulve, et les deux s'emboîtent, si je peux dire. Ajouté à ça, on a mis en place des normes de genre, c'est-à-dire que un homme c'est masculin, ça doit se comporter de telle manière, une femme c'est féminin, ça doit se comporter de telle manière, et au masculin on va plutôt mettre des qualités actives, et au féminin on va plutôt adopter des qualités passives. Et en fait c'est vraiment cette complémentarité là qui a été formée de manière très culturelle, qu'on peut nommer sous hétéronormativité. C'est les comportements attendus d'un homme et d'une femme sous un modèle hétérosexuel. Et voilà, est-ce que les gender studies viennent déconstruire et viennent expliquer qu'en fait, il n'y a rien de naturel dans tout ça, c'est très construit, et que pour arriver à une réelle égalité, eh bien, il faut commencer par déconstruire tous ces stéréotypes qu'on a accordés au masculin et au féminin.
L'hétéronormativité, je suis très content d'avoir appris ce que c'était ce matin. est-ce que vous allez adapter votre conférence aux lycéens et celle que vous allez faire tout public après ? On ne s'adresse pas à des jeunes comme à des tout public, j'ai envie de dire.
Oui, ben, je pense que surtout ce qui va se modifier, c'est peut-être un aspect historique que je vais peut-être moins développer au lycée, mais peut-être plus sur la conférence le soir, et essayer au lycée d'orienter vers des propos pratiques aussi, quoi, parce que voilà, on s'adresse à des lycéens qui a priori sont déjà entrés dans la sexualité ou vont entrer dans la sexualité, et c'est essayer de faire réfléchir à comment pouvoir entrer en sexualité de manière éclairée, ou de manière voilà un peu plus réflexive sur ces questions de consentement, etc. Et sur la conférence tout public, voilà, ça va être pareil, revenir quand même sur des questionnements autour du consentement, mais peut-être axé plus sur comment ça a été construit socialement, etc. Peut-être un côté un peu moins pratique, mais plus historique sur la conférence du soir.
Mais alors justement, comment ça s'est construit historiquement ? Dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, oui.
Ouais, parce que là, sinon vous pouvez rester une heure et demie ou deux heures.
Dans les grandes lignes, c'est que le consentement, en fait, c'est surtout, ça a été défini quand même légalement, c'est-à-dire que ça évolue avec les mœurs, ça évolue avec la manière dont on va considérer l'égalité des humains. Donc, dans une époque où le patriarcat était inscrit véritablement dans la loi, la notion de consentement était beaucoup plus contrainte que ce qu'on a aujourd'hui comme consentement, c'est-à-dire que le consentement, ça se négociait pas, il n'y avait pas de possibilité de dire non, quoi. C'était dans le mariage, par exemple, voilà, quelque chose de le mariage, cette idée de devoir conjugal, c'est-à-dire que quand on est marié, on se doit du sexe. Et donc ça, aujourd'hui, la notion de viol conjugal vient temporiser cette idée de sexualité obligatoire dans le couple, mais on se rend compte que même si c'est plus légalement encadré, l'idée que la sexualité doit être présente dans un couple, on se retrouve quand même avec une idée persistante et des normes qui vont quand même orienter les comportements et orienter cette idée que même aujourd'hui en 2020, un couple dans lequel il n'y a pas de sexualité, c'est un couple qui va mal ou justement ça questionne l'amour ou le désir que les deux personnes peuvent avoir. Et voilà, en gros, le consentement, ça évolue quand même avec la manière dont on va prendre en compte les libertés et l'égalité des individus dans une société.
Au-delà du consentement, on voit quand même certaines choses, et pour finir sur une note peut-être positive, des choses évoluer, notamment sur les agressions sexuelles avec des mouvements comme MeToo, etc. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous dites qu'on va dans le bon?
J'ai pas compris la fin de la question.
Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous pensez qu'on est sur le bon chemin quand même?
Ah, oui, j'imagine, oui. Après, ce qui est agréable à voir, c'est que de plus en plus de personnes vont se questionner et vont quand même remettre en cause justement les normes que les personnes vont de plus en plus considérer comme inégalitaires. Donc oui, il y a une prise de conscience un peu plus globale, j'ai l'impression, de ces questions-là. Donc oui, on peut espérer que ça va continuer à évoluer.
Sujet grave, important, mais passionnant, c'est sûr, le consentement sexuel. Merci Alexia.
Mais merci à vous.
Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie. Je rappelle aussi que vous avez publié votre mémoire de master 2 en sociologie sous le titre « Trouble dans le consentement ». C'est aux éditions François Bourin. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se surprend ici. Merci Corto.
Eh ben, ce fut un plaisir, monsieur de Paris.
On se retrouve lundi, évidemment. Et on va se quitter justement avec Ben Herbert, La Rue, qui sera, je le rappelle, le jeudi à 18h30 à la bibliothèque de Florac, dans le cadre de Printemps des Poètes. Et à Barjac, à la bibliothèque aussi, ce sera vendredi à 18h. La chanson s'appelle Carousel. On vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien. On est bien sur Barthas, on est bien sur le 107. Ciao!
Carousel d'antan, y a des monstres d'enfants et des voitures de sable, des sous-marins marrants, des magiciens parents et des jeux sur la table. Y a des fausses engueulades, des millions de baignades où chacun prend le temps de choisir sa monture, dompter sa créature au carrousel d'antan. Et ça tourne les têtes, un ballet de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne au carrousel d'antan, y a des châteaux brillants et des fanfares d'étoiles, des orchestres de bois, des peintures sur les doigts et un vaisseau spécial, des formules en nuages, des costumes de feuillage, des kraken, Léviathan, qui s'invitent dans la danse et qui suivent la cadence du carrousel d'antan. Et ça tourne les têtes, un ballet de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne, y a des monstres sous les lits à qui on botte le cœur avec nos Santiago chaussons, nos battes de baseball et nos boucliers en mousse. Au carrousel d'antan, y Y'a des histoires le soir qu'on re-racontera 20 ans plus tard, avec le même calme joyeux, avec les mêmes pas de doigts au coin des yeux, au carrousel d'antan. Y'a des avenirs cosmonautes, des montagnes jamais trop hautes, des vocations de pêcheurs de lune, qu'on sait qu'on y arrivera. La question on se la pose même pas, parce que même dans 50 ans, quand la grande lessive du temps aura fait son travail d'amnésie, on gardera bien enfoui les vestiges rebelles du vieux carrousel. Et ça tourne les têtes, un ballet de silhouettes où se mélangent les âges. Et ça tourne, et ça tourne sans fin, des souvenirs plein les mains, l'empreinte de notre passage. Et ça tourne le film, tout en haut de la cime. Regardez-moi avec ma tête de nuage qui tourne, la grande lessive du temps, du carrousel d'antan, et la suite du voyage qui